Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans Radio Foot International. Pendant que la dame souffle, jusqu'à lundi, pas plus, c'est promis, il en faut qui turbine. Les Bleus, tiens, notamment la bande à Dédé est en Islande, pays des geysers, des sources d'eau chaude et des suns. Il y en a partout des suns. Bout de terre perdu de l'Atlantique Nord où l'équipe de France s'apprête à retrouver des gars blonds, inventeurs du clapping et bien décidé à semer d'embûches sa route vers l'Euro 2020. Les Turcs, lundi à Paris, s'y emploieront aussi. Il faut dire que les Turcs s'emploient à des tas de choses en ce moment. Bref, une séquence internationale importante sera-t-elle délicate pour autant, vu le nombre de cadres absents? Normalement non, mais il va sans doute falloir jouer serré et avec humilité. D'accord avec tout ça, Gilles Verdez?
Ah oui, je suis entièrement d'accord avec vous, je suis très impatient de ce match, parce qu'il y a effectivement énormément d'absents. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va faire sans les absents.
Ah bon, on est ravis, ça démarre bien, bonjour à vous. Comme nous, vous avez dû avoir un œil intéressé, voire partisan cet après-midi sur Sénégal-Brésil à Singapour. Bon, un petit nul au final, équitable. Après un match sur courant alternatif entre le vice-champion d'Afrique et le champion d'Amérique du Sud, Firmino d'un côté, Diédiou de l'autre, buteur avant la pause. Autre match amical à l'affiche alléchante, c'était hier Allemagne-Argentine. Une mi-temps dans chaque camp de deux scores finales, sans que l'on sache vraiment qui cela doit inquiéter ou rassurer. Vous êtes d'accord aussi avec ça, Salim Bongali?
Je suis toujours d'accord avec vous, Olivier.
Ouais,
bonjour, Olivier.
Bonjour, Salim. Enfin, nous terminerons cette émission par un coup d'œil sur le tirage au sort hier des poules de la Ligue africaine des champions, trois groupes de fort belle facture et un quatrième de déglingo. Avec le Raja Casablanca, la JS Kabylie, l'AS Vita Club et l'Espérance de Tunis, tenante du titre, Patrick Juillard. Celui-là, on assisterait bien à tous les matchs, non?
Ah oui, largement. Et il y aura forcément deux champions, deux anciens champions d'Afrique sur le carreau à la fin. Donc c'est vraiment le groupe de la mort. Là, on ne peut pas l'appeler autrement.
Non, c'est vrai, pour une fois. Bon, allez. Finzel a bidouillé, Guérin a publié, Salerno va manipuler, le copain Brice, tout là-haut, nous écoute, c'est sûr, une pensée pour lui. Radio Foot, ça roule.
C'est terrible surtout ce qui se passe pour Hugo Lloris, là. On a vite envie d'avoir des nouvelles d'Hugo Lloris qui va évidemment sortir sous les applaudissements de la Mec Stadium.
Ou la cuisse.
Ah, il a demandé le changement, ça y est, c'est terminé pour Kylian Mbappé.
Chaque fois, il y a toujours des blessés. Là, ça fait beaucoup quand même, parce qu'il y en a, vous dites, 7.
7 depuis le début de la préparation.
4 ouais. Dans les 31.
C'est flippant la télé quand même.
C'est flippant la télé, c'est pour ça que vous faites bien d'écouter la radio. C'est vrai que c'est flippant. Et monsieur Salerno, quand il s'y met, là, cette musique, là, et tout ça, c'est son côté italien. Nous sommes à la veille de la séquence internationale des Bleus, la plus importante depuis qu'ils sont champions du monde, la plus passionnante. On fera le bilan lundi soir, hein, pour ça. Toujours est-il que si les hommes de Didier Deschamps s'imposent demain à Reykjavik, ils seront quasiment qualifiés pour l'Euro, et à coup sûr, s'ils enchaînent lundi face aux Turcs. Alors, est-ce que, on va faire un petit tour de table, ces deux matchs sont excitants, on terminera par Gilles Verdez, parce qu'il nous a déjà fait comprendre que lui, il était comme un taré. Patrick.
Excitant modérément. C'est les matchs quand même les moins tristes de ce groupe, quand même, qui est un groupe très faible, un groupe avec beaucoup de pays qui devraient passer par un tour préliminaire et ne pas faire ces matchs de poule qui alourdissent le calendrier inutilement. Donc oui, c'est quand même les deux adversaires un peu valables de ce groupe. Donc oui, plus excité que le mois dernier, en tout cas.
Plus excitant depuis qu'ils sont champions du monde.
Oui, c'est exactement. Et puis, de l'autre côté, dans ces deux rencontres, vous avez la Turquie, quand même, qui a battu lors du match à l'équipe de France. Donc, moi, j'ai envie de voir la potentielle réaction de cette équipe de France. En plus, sans certains de ses cadres, mais déjà en se testant face à l'Islande. Et après, pouvoir, sans ces cadres-là, est-ce qu'on peut déjà battre l'Islande et donc ensuite...
On va détailler tout ça, Gilles.
Très excité parce que c'est deux matchs au sommet. Moi, j'aime bien les groupes un peu sombres, austères comme ça, où on a des matchs a priori qui sont pas France-Allemagne ou France-Angleterre, mais où on se passionne. Moi, je me passionne toujours pour les Bleus. Attention, il faut aller gagner chez les inventeurs du clapping. Pas évident. Et la Turquie, on a une revanche à prendre. Ah oui. Donc, je suis excité sur les deux soirs.
Alors Clément Langlais est-il excité, lui? On lui a demandé en début de semaine, il était en conférence de presse à Clairefontaine mardi, s'il y avait un petit peu plus de pression, vu que là quand même, il y a deux matchs à enjeu. La réponse du défenseur du Barça.
Il n'y a pas de pression particulière, mais on sent bien que ce sont des matchs couperets. On joue le premier et le troisième des nations qui sont tout en haut du classement et qui vont lutter jusqu'à la fin pour la qualification. C'était important aussi sur les sélections précédentes de prendre les points, puisque ça nous permet d'arriver maintenant avec des matchs très très importants pour nous. Pour l'instant, il n'y a pas de pression, mais forcément, on sent que c'est des matchs qui vont être déterminants pour la suite de la qualif.
Alors, déterminant et intéressant, parce que vous l'avez tous déjà évoqué, et Monsieur Salerno dans son jingle aussi, sans les cadres blessés, donc Pogba, Mbappé, Lloris, tous blessés. Une attaque qui peut douter, on va revenir sur les cas Griezmann laissé sur le banc au Barça, et Giroud qui a joué 18 minutes depuis les précédents rendez-vous des Bleus, début septembre, c'était face à l'Albanie, puis Andorre. Voilà ce qui peut rendre éventuellement ces matchs encore un peu plus intéressants. On va dans le même ordre, tiens Patrick.
Oui, les cas individuels évidemment sont toujours intéressants, vous l'avez dit, sur l'attaque... Ça va peut-être redonner un regain de confiance à ces joueurs-là qui sont un peu en plus ou moins à des degrés divers en difficulté dans leur club. Maintenant, on va voir aussi si Didier Deschamps garde le même schéma, ce 4-2-3-1, 4-4-2, enfin ce schéma hybride qui est son schéma préférentiel. Et puis évidemment le milieu de terrain. Alors effectivement, vous avez dit on n'aura pas Pogba, mais il y a quand même le retour de N'Golo Kanté qui est très important, qui est même capital quand on voit la valeur du joueur et à quel point ce joueur est quand même sous-estimé dans tous les bilans mondiaux et voilà. Et puis le gardien de but, là par contre moi je me pose de vraies questions, parce qu'on a beau dire qu'Hugo Lloris traverse une phase un peu difficile, qu'il n'a pas été exempt de tout reproche ces derniers temps avant sa blessure, mais malgré tout, Stem Mandanda, ça fait longtemps qu'il n'était plus au niveau international. Il revient à peine à l'OM. Ça fait longtemps qu'il n'a plus joué avec l'équipe. Donc, il y a une inconnue là.
Il y a plusieurs cas, parce que le cas Mandanda, effectivement, en plus, lui qui était donc hors du groupe à un moment donné, qui est revenu au final numéro 2, alors qu'Areola était en fait numéro 2 à un moment donné, finalement Mandanda est passé direct numéro 2, et en plus avec la blessure de Lloris, eh bien il est numéro 1 désormais. Juste quand vous disiez que ça peut redonner à certains de la confiance, je vais aller même plus loin, ça peut être surtout pour certains une dernière chance. Prenons le cas Olivier Giroud. En plus, Didier Deschamps,
il a été très clair lundi en conférence de presse.
Voilà, comme rarement il a évoqué le cas Giroud, notamment expliquant que Franck Lampard et lui ont régulièrement échangé, que Franck Lampard lui avait dit il y a quelques semaines, si tu pouvais ne pas le faire jouer en équipe de France. En revanche, Deschamps lui avait dit, c'était jeudi dernier que Didier Deschamps expliquait, mais j'espère que lui le fera jouer en championnat. Résultat, le week-end suivant, il était même pas dans le groupe. Donc c'est vous dire quand même que pour Giroud, c'est pas simplement une remise en confiance, c'est peut-être une dernière chance, parce que Deschamps, à un moment donné, il va se dire ouais, mais je vais pas continuer de mettre un mec en numéro 9 qui joue jamais.
Il a été très clair, si on recommence sur la séquence avant la prochaine séquence mi-novembre, 18 minutes de jeu, on l'a dit, depuis début septembre, c'est clair qu'il n'en sera pas, Olivier Giroud. On sait qu'il est très pragmatique, Didier Deschamps, ça va être son gars sûr, il le sera moins en novembre.
Bon, je pense quand même que le rapport de confiance entre Giroud et Deschamps est tel que c'est une manière de mettre la pression. C'est une manière de mettre la pression sur le joueur, aussi, on le disait, sur le club.
C'est vrai qu'il est allé très fort dans les entraînements pour montrer...
C'est pas encore une rupture. Pour moi, c'est pas encore un ultimatum. Voilà. C'est une manière de dire, attention, il faut que ça évolue. Mais si le temps de jeu de Giroud n'augmente pas dans les prochaines semaines, je suis persuadé que Deschamps ne le mettra pas de côté au prochain rassemblement. Parce que au contraire, il tentera une nouvelle fois de le remettre en confiance, tellement Giroud a été précieux pour les Bleus. Giroud, moi, ça a jamais été mon homme proté. Je suis pas fan personnellement, mais c'est pas le débat. Entre eux, il y a une telle relation de complicité qu'à mon avis, Giroud, il a encore un petit peu de marre.
Gilles, juste, l'équipe de France n'est pas faite pour redonner de la confiance à quelqu'un.
C'est pas l'armée du salut, quoi.
Voilà, c'est fait normalement l'équipe de France pour avoir des joueurs qui sont à peu près à 100%, voire à 100%, pour permettre à l'équipe de gagner. C'est pas l'inverse.
Primo champion du monde pour moi. Quand
alors
même.
Simplement, c'est clair, avec on peut relativiser peut-être.
Mais moi, je suis favorable. Djibril
Sidibé qui est appelé alors que
il joue jamais,
c'est la prime au champion
du monde. On peut quand même relativiser l'importance du prochain rendez-vous, puisque si tout se passe bien pour les Bleus ce mois-ci, que le gagne les deux matchs,
pratiquement,
le prochain rendez-vous au mois de novembre n'aura pas d'enjeu, et Didier Deschamps pourra toujours dire je ne prends pas Olivier Giroud pour tester d'autres joueurs et pour
la
faire
France
passer cette,
la Moldavie et
faire
en
passer
Albanie.
Le côté sanction de son absence en fait, habiller la mariée. On
si Giroud n'était pas titulaire, Ben Yedder.
Oui, c'est le plus probable.
Giroud sera titulaire. Mais si,
si, si Giroud n'était pas titulaire.
Oui, Ben Yedder. Mais voilà.
Je parle de demain.
Ce sera Giroud. Mais oui, oui, j'entends bien. Donc il sera titulaire. Mais Ben Yedder est une solution alternative. Alors pour revenir plus globalement sur les Bleus, moi ce qui me passionne là, c'est qu'on a un pilier manquant dans les trois lignes. Loris, ligne défensive, y compris le gardien de but. Pogba au milieu, Mbappé devant. C'est quand même la colonne vertébrale, l'axe majeur, qui est absent pour une équipe. C'est redoutable. Et je vous pose la question, comme on va gagner en Islande, quelle autre équipe que les Bleus irait gagner en Islande et se qualifier sans trois de ces pivots absolus et sans trois joueurs de cette renommée-là?
Attention Gilles,
ce qui prouve le travail extraordinaire de Deschamps.
On va parler de l'Islande, évidemment. Je rappelle juste le classement pour l'instant de ce groupe H. Premier, les Turcs, parce que c'est la différence de buts particulières qui compte. Les Turcs ont 15 points comme les Français et une moins bonne différence de buts générale, mais ils ont battu les Français, on y reviendra. L'Islande est à 3 points. Donc effectivement, si les Bleus les battent demain, il y aura 6 points d'écart et il y aura plus que 3 matchs à jouer, mais enfin des matchs qui sont assez pour ceux de novembre assez simples. L'Albanie est compte 9 points, oui. La Moldavie 3 points, Andorre 0. Juste avant de
l'Albanie n'est pas éliminée encore hein.
Non,
gagne ses deux prochains matchs,
ils peuvent revenir.
Ils peuvent retarder la consécration de l'équipe de France.
Deux derniers mots sur les Français. Griezmann, on en a parlé dans l'émission mardi. C'est compliqué avec le Barça. Il est resté sur le banc face à Séville dimanche. Là, lui, il jouera. Il n'y a aucun doute là-dessus. On a entendu Clément Lenglet dans la semaine dire « Vous, vous vous inquiétez, mais moi pas. Il vient d'arriver au club. Ça va se faire. »
On en a déjà parlé dans cette émission sur cette ligne de trois. Effectivement, Messi, Suarez, Griezmann, hein, puisque ce sont des trois dont on parle. Oui, Griezmann arrive dans un nouveau club, au final, dans une nouvelle manière de fonctionner, dans une nouvelle manière de jouer, j'ai envie de dire. Là où à l'Atlético, on devait être encore plus collectif qu'on l'est, entre guillemets, désormais à Barcelone, il a besoin de se roder et de comprendre comment les deux autres jouent pour pouvoir jouer avec eux. Et les joueurs intelligents, au final, ils finissent par se comprendre. Donc, il n'y aura pas de souci pour lui. Il faut juste lui donner un peu de temps. En revanche, et Gilles le disait, il y a des leaders qui manquent, mais il y a un leader qui est là. Griezmann, c'est un leader d'attaque, et pas que, j'ai envie de dire. Ça reste quand même un homme et un homme clé de cette équipe de France. Donc,
si il y a un leader en défense si avec Varane.
Exactement. Donc, si on peut se reposer aujourd'hui en équipe de France, donc il y a Varane, Kanté, Griezmann, il y a des joueurs qui sont là quand même, et donc Griezmann fait partie.
Et on rappelle que Pogba et Mbappé n'étaient déjà pas là en septembre, oui, ça s'était pas mal passé, bon, devant l'Albanie.
Il y a quand même de la ressource hein, en France. Hein, c'est... Après, moi, ce qui m'inquiète, je sais pas s'il est temps d'en parler, c'est plus l'Islande, parce que...
Alors, on va en parler de l'Islande. Je voudrais juste vous demander un dernier mot sur Lucas Hernandez. Le Bayern veut pas qu'il joue, et dit, mais il est blessé, et le staff médical des Bleus dit, mais non, il est tout à fait apte. Lui semble vouloir jouer. Il est dans une position, délicate, quand même, vis-à-vis de son club.
Pour des tas de raisons. Historique, médicale, morale, que le Bayern nous donne pas de leçons. Que le Bayern et son staff médical ne nous donnent pas de leçons.
Discours.
Jamais, jamais.
Vous pensez à un certain Müller-Wolfhardt.
Voilà. Donc, c'est un très grand club, mais ce qui se passe au Bayern ne se passe pas chez les Bleus. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le staff médical de chaque équipe nationale qui doit donner son aval au forfait d'un joueur. Si le joueur est opérationnel et que le club aurait voulu hypothétiquement qu'il se reposât, eh bien il ne se reposera pas, il jouera avec les Bleus. Voilà, c'est comme ça. S'il est blessé comme Mbappé, il s'en va. S'il est apte, il reste.
Après, on le sait, dans ces cas-là, et notamment dans ces trêves internationales, il y a les clubs qui essaient de tout faire pour préserver leurs joueurs, pour leur dire « Eh, juste Didier, est-ce que tu pourrais ne pas le faire jouer juste sur ce match-là ? Fais-le jouer sur l'autre. Ou s'il te plaît, préserve-le. » C'est normal, c'est de bonne guerre, comme le PSG l'a fait avec Kylian Mbappé, même si le Français semble-t-il.
C'est ce qu'a fait Liverpool avec Mohamed Salah, qui est laissé au repos pour les matchs de l'Égypte, qui sont des matchs amicaux.
Alors que Salah était tout à fait apte, en l'occurrence, il a joué.
C'est pas pareil, amicaux et officiels quand même.
Bien sûr. Oui. Parce que j'allais dire, on parlera tout à l'heure d'Allemagne-Argentine, il n'y avait pas Messi, il n'y avait pas Di Maria.
Tout à fait.
Chez les Argentins. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Patrick Juillard, on va parler de l'Islande. Vous êtes prêts?
On est prêts.
200 fois moins peuplée que la France, 5 fois plus petite, que craindre de ce stade ouvert aux 4 vents, hein. Alors je vais essayer de vous le lire, c'est le Laugard d'Arsvolur, hein, bien sûr.
Quel bel accent.
Vous débrouillez pas mal, hein.
Oh là là.
Pas
mal. Je vous propose d'écouter l'avis de Didier Deschamps, qui nous dit ce qu'il pense de ces Islandais.
Elle est surtout beaucoup plus performante à domicile qu'à l'extérieur. Après, les qualités, elles vont pas changer. C'est évidemment, il y a une densité athlétique qui est là, avec un jeu plutôt direct. et avec beaucoup d'engagement et avec une très bonne efficacité sur tous les coups de pied arrêtés. Ils ont marqué beaucoup de buts là-dessus, aussi sur des touches, parce que les touches, c'est comme des coups francs ou des corners pour eux, avec quelques combinaisons. C'était peut-être autant, si ce n'est pire, quand on les avait rencontrés à l'Euro, parce qu'on avait passé pratiquement 3 séances à travailler là-dessus. Donc, quand ils sont chez eux, ils ont encore un peu plus une âme supplémentaire. On va avoir un adversaire qui va avoir du répondant.
Et j'en profite pour dire que ce sera l'immense Antoine Grenier qui sera là-bas demain pour RFI. Il est d'ailleurs déjà sur place puisqu'au moment où on se parle, non, c'est dans une petite heure. Il y aura les conférences de presse de Didier Deschamps et de Raphaël Varane, ce qui signifie sans doute que Raphaël Varane sera capitaine sur ce coup-là. Revenons à ces Islandais dans leur antre. 3 défaites en 22 matchs chez eux ces 6 dernières années. C'est vrai qu'il y a un an, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais on les a battus 5-2 à l'Euro en quart de finale, on les a dosés 4-0 l'année dernière au Stade de France, c'est de la rigolade.
Comme vous, là, avec cet accent-là, comme comment ça Ils le disent avec cet accent-là.
Oui, oui, pareil, d'accord. Exactement. Vous ne vous souvenez plus. Et donc, mais c'est au bistrot, ça. Résultat, ça va être fastoche, mais pas du tout.
Non, pas du tout. Vous l'avez dit, depuis, ils n'ont pas perdu un match éliminatoire à domicile depuis 2013. Ils ont perdu un match amical contre la Norvège. Ils ont perdu des matchs en Ligue des Nations. Bon. Une épreuve qui est à mi-chemin entre les amicaux et les matchs officiels,
vous parlez
d'un intérêt relativement limité. Mais ils sont durs à battre. C'est une équipe qui fait corps. C'est une équipe. Alors, je pense qu'en qualité de jeu, ça a baissé depuis l'Euro. Oui. Ils avaient développé quelque chose de plus.
Un jeu ils ont un peu enchaîné deux rendez-vous historiques. Oui, hein. Oui. Quart de finale à l'Euro et puis une Coupe du Monde.
Une Coupe du Monde où ils n'ont pas été brillants.
Ouais, enfin bon,
ils ont été battus par le Nigeria.
Ils ont fait machu contre l'Argentine.
Et le match nul contre l'Argentine qui est une Argentine moyenne, mais il faut le faire quand même.
C'est d'ailleurs, le groupe est quasiment inchangé. Hein. On voilà. Trouve les mêmes de l'Euro 2016, ce qui prouve aussi que bon, il n'y a pas.
Il n'y a pas un renouvellement énorme, mais le jeu est devenu plus direct. À l'Euro 2016, ils avaient un jeu un peu plus de type néerlandais, avec quand même des combinaisons, des ballons portés. Là maintenant c'est un petit peu plus, on balance et on est compact et on voit ce qui se passe. Mais ça reste une équipe dure à jouer, assez coriace, et il va falloir ne pas trop tarder à ouvrir le score. C'est le genre de match où si on attend pour ouvrir le score, ça peut vite devenir un peu une glue difficile à se dépêtrer pour l'adversaire.
Et Gilles pense que c'est fait. Et à la limite, on a même pas de temps à perdre demain. On peut aller directement dîner avec madame.
Je pense que nous laminerons l'Islande 1-0 tranquillement. Et que, effectivement.
À la 89e.
Ce sera pas si simple, mais je pense qu'on a une marge. Et effectivement, l'euphorie islandaise est retombée.
Oui.
À la fois dans le jeu, dans les performances, dans la passion suscitée. Voilà, ça a baissé. On est revenu, je dirais, mais je dis ça sans condescendance du tout. 15 ans en arrière avec un jeu un peu plus stéréotypé. Je dirais pas un jeu scandinave ou nordique parce qu'il y a des équipes scandinaves qui pratiquent un jeu bien léché, mais là effectivement un jeu plus direct. L'Islande a quand même beaucoup perdu de mon point de vue, donc je pense que ce n'est plus l'adversaire du dernier Euro.
Ce n'est pas l'adversaire du dernier Euro, mais ce n'est pas non plus, je pense, celui d'il y a 15 ans, dans le sens où vous avez quand même des joueurs qui évoluent dans certains clubs, dans certains championnats en tout cas. La star, c'est Gylfi Sigurdsson, qui lui évolue à Everton. D'ailleurs, c'est toujours étonnant, ces joueurs qui, en club, sont parfois en difficulté. Sigurdsson en fait partie, comme d'autres d'ailleurs, Finn Bogason ou en Allemagne ou autre, mais qui, lorsqu'ils se retrouvent en sélection, redeviennent des leaders naturels, et Sigurdsson en fait partie. Gudmundsson également à Burnley et dans le même cas, d'autres joueurs aussi. Donc attention quand même, lorsque ils ont ce maillot bleu-là, ils deviennent tout d'un coup quelqu'un d'autre, un leader, et Sigurdsson peut en faire partie.
Et c'est peu de dire qu'ils ont un pays derrière eux. Il va y avoir quand même un peu d'ambiance dans ce stade. Bon, il y a 10 000 places, on attend 800 Français. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent, paraît-il, hier. Il faut espérer qu'il y en ait un peu moins demain parce que c'est vraiment le stade ouvert aux 80. Mais on a l'impression, les Islandais, qu'ils font partie de notre génération à tous, quel que soit notre âge. On a l'impression de les avoir vus depuis toujours dans des éliminatoires. Les Bleus les ont croisés un nombre de fois incroyable.
Ça fait partie de ces équipes sur lesquelles on est souvent tombé, effectivement. Alors que, par exemple, si on prend un exemple proche, la Finlande, c'est rare que les Bleus tombent dessus. La dernière fois, c'est de triste mémoire, c'était le groupe pour les qualifications pour la Coupe du Monde 94. Bon, Je crois, hein. Je pense pas qu'on les ait repris depuis. Non. Mais l'Islande, amical, c'est vrai qu'on a, on a souvent joué contre l'Islande. C'est des hasards, c'est des, le jeu des pots et des têtes de série qui font qu'on tombe plus sur les uns que sur les autres.
Vous retrouverez donc Antoine Grenier demain soir pour des points tout au long de la soirée. Et puis vous le retrouverez, tiens, j'aurai même la chance de l'accompagner lundi, puisque ce sera en direct et en intégralité sur RFI. On ne lésine pas, mesdames, messieurs, France-Turquie.
Au Stade de France.
Et alors, je serai d'autant plus content que j'étais au mois de juin à Konya.
Et
donc j'ai vécu cet affront dans une ambiance indescriptible. D'ailleurs, l'ambiance, on va pouvoir en parler, parce que France-Turquie lundi, pour des raisons même politiques, hein, on sait tous ce qui se passe depuis 24 heures, 48 heures, du côté de la Syrie et de ces pauvres Kurdes qui nous ont tant aidés et qu'on a bien besoin d'aider. Sans faire de politique, on s'arrêtera là, mais sans doute qu'elle va s'inviter lundi. Il y a eu une réaction aujourd'hui du président Macron assez ferme envers le président turc Erdogan, donc la pression va monter aussi un petit peu de ce côté-là. On annonce énormément de Turcs au Stade de France, moi j'en connais personnellement, qui ont pris leur billet de longue date. Puis il y a de la revanche sportivement, pour revenir sur le terrain exclusivement sportif, de la revanche dans l'air. Konya en juin, encore une fois dans cette ambiance indescriptible, le pire match des Bleus de l'ère Didier Deschamps, une défaite 2-0. Elle était très présente, cette défaite, au mois de septembre quand les Bleus se sont retrouvés. Je suis sûr qu'elle est tout aussi présente là et qu'ils ont envie de remettre les choses à leur place.
Elle est restée arithmétiquement, parce que c'est quand même un faux pas qui pèse sur le dos des Bleus et qui pèsera jusqu'au bout des éliminatoires.
Du monde,
ça fait tâche. La deuxième chose, c'est que moi j'ai toujours pensé que le foot était éminemment politique et l'équipe nationale de Turquie est une sélection éminemment politique, plus que d'autres, avec tout ce qu'elle revêt, arbore comme symbole. À la fois symbole exprimé, symbole contenu dans son essence même. Donc voilà, ce sera un match politique compte tenu de l'enjeu. Plus pour les Turcs, Deschamps n'est pas un sélectionneur politique au sens... il l'est dans sa gestion des hommes, mais il ne l'est pas dans la manière d'appréhender le monde extérieur. Il refuse ça. Donc ça sera moins pour les Bleus, mais effectivement, le stade lui-même sera politique.
Oui.
Totalement politique. Donc ça fait un match bouillant.
On peut s'attendre quand même à une ambiance vraiment bouillante. Quel plaisir de le commenter.
Ah oui, gros match.
De toute façon, ces matchs entre l'équipe de France et une équipe qui présente une forte communauté dans le pays, comme les France-Portugal, France-Algérie, France contre les pays du Maghreb.
Oui, moi je me souviens de la France-Maroc il y a quelques années. Voilà. J'étais au Stade de France et ce jour-là, il y avait plus de supporters marocains que d'équipes de France.
Bien sûr, parce que cette communauté va peut-être plus se mobiliser que les Français qui voient des matchs de leur équipe 6 ou 7 fois par an. Bon, qui sont un peu plus blasés et qui en plus, pour eux, la Turquie n'est pas l'adversaire le plus prestigieux, n'est pas l'adversaire pour lequel on va le plus se déplacer. C'est pas comme si on jouait l'Italie, l'Allemagne ou l'Angleterre.
Et puis, juste, on parle de du côté politique, cela a été évoqué, mais sportivement parlant, quand même, la Turquie reste sur des dernières compétitions où elle, globalement, en règle générale, elle est absente, donc elle a eu des gros soucis à se qualifier, etc. Donc là, elle est au final à deux doigts de se qualifier potentiellement, puisqu'on rappelle, les deux premiers sont qualifiés.
Les deux équipes seront peut-être quasiment déjà qualifiées lundi au moment de se retrouver.
Voilà, donc c'est pour ça que qu'encore plus, j'ai envie de dire, ce match revient à l'intérêt pour les Turcs et la Turquie globalement, puisqu'il y a peut-être une potentiel de qualification.
Après, messieurs, la Turquie, face à ces Bleus-là, même diminués, normalement...
La France est favorite.
Y a, au-delà du match aller, la France était favorite aussi.
Mais c'était...
Les joueurs étaient plus ou moins présents, il n'y avait pas forcément beaucoup de blessés, et on a vu le
non-match
absolu.
Alors, Didier Deschamps dit souvent que
que les fins de saison sont pour les deux équipes.
Oui, mais Didier Deschamps dit souvent que la date du mois de juin, lors des années impaires, donc quand il n'y a ni Euro ni Coupe du Monde en juillet, est toujours très délicate à gérer. Les joueurs ont plus la tête en vacances et donc ça s'était vu à Konya. Hein. Vous y étiez et vous pouvez confirmer.
Ah oui, oui.
Il y a Turquie-Albanie là. Turquie-Albanie avant nous.
C'est chaud également ça.
C'est très chaud. Si les Turcs, vous parliez du niveau de l'équipe turque, si les Turcs battent les Albanais, donc quasiment les sortent de la course à la qualification, lundi seront totalement galvanisés, hein. C'est-à-dire qu'ils joueront, leur billet lundi. Donc là, le Turquie-Albanie.
On rappelle que les deux premiers sont qualifiés.
Premiers sont qualifiés. Mais en pensant à votre commentaire de lundi, si les Turcs arrivent en vainqueur pour nous affronter, ce sera vraiment un match au sommet.
Oui, Gilles vous donne des conseils pour comment.
Pas du tout. Je pense déjà à votre légendaire passion. Et l'équipe turque, effectivement, qui souvent a été, je dirais, moins a véhiculé moins de passion que les équipes de club. Les formations stambouliotes notamment. Mais là, cette équipe turque, si elle arrive après avoir battu l'Albanie en France, c'est le plus gros match de la Turquie depuis des années.
Ouais. Je vous rappelle que le duo Grenier-Pron est le duo champion du monde. Mais sur RFI.
C'est,
bon,
c'est pour ça.
C'est pour les Turcs qui vont nous faire peur.
Vous serez à la hauteur de ce match.
on se rappelle quand même que les Turcs avaient battu les Français, mais que derrière, ils étaient allés se faire battre. Où ça?
En Islande.
En Islande. En Islande, hein. Ouais. Donc, ça, pour recontextualiser tout ça, c'est bien
donc,
de.
Donc, comme la Turquie a battu la France et que l'Islande a battu la Turquie, l'Islande a battu la France.
Voilà,
c'est ça
tout ça pour vous dire que ce sont deux matchs importants, ce sont deux matchs auxquels il faut s'intéresser.
Oui.
Gilles Vernez l'a bien compris, j'ai senti, chez Salim et chez Patrick, un peu moins de passion. Vous ferez ce que vous voudrez, vendredi soir et lundi soir. Enfin, vous avez le droit d'écouter RFI. Bon, je pense qu'on a dit, Laurent Salerno, l'essentiel sur ces deux matchs des Bleus. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, parce que lundi, avant et après ce match en intégrale, donc avec le duo que vous connaissez, il y aura la dame, présente deux fois, le lundi après-midi comme d'habitude,
et
pas
soir.
De rediffusion lundi soir. Non, non, direct. Direct pour débriefer et peut-être parler d'une éventuelle qualification
peut-être.
Des Bleus, ou alors d'un nouveau fiasco. On verra ça lundi soir. Allez, on passe à autre chose.
Gabriel Jesus, qui élimine encore Colli, la bonne passe, c'est bien joué avec Firmino. Le ballon piqué, remarquable de la part de Roberto Firmino. Quelle finition de la part de Firmino. 1-0 déjà pour le Brésil. Mané, est-ce qu'il va en faire de même? Oui, Daniel Alves. Derrière, il y en a un deuxième, c'est Marquinhos. Oh, il est passé à merveille. La faute des penalty. Penalty, bien sûr, pour le Sénégal. La faute de Marquinhos. Qu'est-ce qu'il a été fort là, Sadio Mané. Famara Diadio face à Ederson. Très bien tiré, parce qu'il y a de la puissance et de la précision. Le Sénégal, juste avant la mi-temps, revient face au Brésil. Un partout.
C'était à Singapour. Bon, ça c'est une histoire de sponsor, pas forcément la meilleure idée qui soit entre le décalage horaire. D'ailleurs, on a vu, c'était sans doute pas la meilleure
idée.
C'était
quand même plus plein que les championnats du monde d'athlétisme au Qatar, hein, les tribunes.
Ah oui, mais à Singapour, on s'intéresse au foot. Au Qatar, on s'intéresse pas à grand chose d'autre qu'au pétrole et à l'argent que ça rapporte.
Au gaz.
On vous dit, on soutient des gens.
Comme
aussi.
Vous y allez.
Oui, y a pas de balle. C'était à Singapour, une première mi-temps, on vient de l'entendre, avec Firmino qui marque un joli petit but, un Sadio Mané qui provoque un pénalty.
Merci Liverpool, on a envie de dire.
Comment?
Merci Liverpool.
Bah exactement, regardez Firmino, voilà, eux ils voyagent, ils sont moqués à Liverpool, ils voyagent, le jet lag n'a pas de prise sur eux, mais enfin bon, il faut reconnaître quand même que derrière, en deuxième mi-temps, bon, on aurait presque trouvé ça un peu long, non?
Ouais, mais c'est souvent comme ça les matchs amicaux avec les changements en deuxième mi-temps, le manque d'intensité, le manque d'enjeu, ça part un peu en eau de boudin souvent, ces matchs ça commence pas mal et après la fin c'est un peu plus plan-plan et parfois même soporifique. Là, au moins, on a eu une bonne mi-temps, pas mal, d'assez bonnes factures au début. Après, bon, la fin, moi, j'en attends jamais grand-chose.
Quand vous y ajoutez en plus le climat, encore une fois, très chaud, très humide, il y a eu des pauses fraîcheurs, hein, justement, pour essayer d'alléger, entre guillemets, les difficultés des joueurs. Les joueurs donc qui sont sortis d'autres entrées donc avec des intensités de rythme en tout cas pour ces joueurs-là différentes, c'est logique qu'en seconde période ça retombe. Encore une fois, ce n'est qu'un match amical.
Gilles, on aurait bien aimé nous que les Sénégalais fassent tomber le Brésil.
Mais ils ont quasiment fait tomber le Brésil. Moi, j'ai été très excité par ce match parce que quand même. Eh oui, mais aujourd'hui, tout m'excite. Sénégal-Brésil, un partout quoi. Un partout, c'est-à-dire que le Sénégal a fait match nul avec le Brésil de Neymar qui fêtait sa 100e sélection, l'a empêché de marquer. Sadio Mané a montré que s'il n'était pas Ballon d'Or, ou je vous le concède, deuxième au classement du Ballon d'Or.
C'est la minute, c'est la minute. À chaque fois que je suis dans cette émission depuis, je rappelle à tous ceux qui votent qu'il s'appelle Sadio Mané, qu'il est le meilleur joueur incontestablement sur l'année 2019 et qu'il est grand temps de voter pour lui.
Alors là, maintenant, il obtient un pénalty, fait la décision tout seul. Il ridiculise lors de quelques actions, et il aurait même pu marquer la défense, l'arrière-garde brésilienne du PSG. Donc là, on est quand même à un très haut niveau. Donc pour moi, ce match, certes amical, c'est quand même le nouvel avènement de Sadio Mané.
Ah voilà. Sadio Mané, insistons sur le cas Sadio Mané et j'ai pas envie de dire.
Mais vous n'avez qu'à faire le programme.
Mais j'ai pas envie de parler de l'équipe du Sénégal. Je m'explique. Aujourd'hui, quand j'ai observé cette équipe, notamment sur la première période, qui était, comme le disait Patrick, la meilleure, il y avait un joueur qui était évidemment très au-dessus du lot côté Sénégal. Sadio Mané, Koulibaly évidemment très intéressant, Kouyaté également au milieu de terrain intéressant. Après, à Lucicet disait en conférence de presse d'avant match que il voulait voir ce que son équipe donnerait, notamment pour les années futures, que ce soit pour la Coupe d'Afrique, pour la Coupe du Monde, qu'il voyait une équipe du Sénégal pouvant aller pourquoi pas en quart, voire même plus loin. Pardon, mais il y a eu des séquences intéressantes, mais il y a d'autres où je me dis, Sadio Mané est très au-dessus, et Sadio Mané, s'il s'appelait Maninho, il aurait le ballon d'or, disons les choses. Malheureusement, il s'appelle Sadio Mané.
Et il va relancer le débat.
Exactement. Mais après, pardon, mais aujourd'hui, l'équipe du Sénégal, alors même si le Brésil était, c'était un 11 type au final brésilien, hein, quasiment 11 type, ça reste quand même une équipe qui est encore un ton en dessous, deux tons en dessous de certaines formations, et non, dans notamment le Brésil. Alors oui, vous allez me dire, il y a eu Machul, donc ça reste un résultat équitable, mais sur certaines séquences, on avait un Brésil qui était très 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 au-dessus, et un Sénégal en réussite. Donc, c'est bien d'avoir fait Machul, surtout dans ces conditions-là. Mané est brésilien, j'ai envie de dire, parce que Mané est très très au-dessus, les autres, malheureusement, sont encore en dessous.
Je trouve qu'effectivement, Mané, tout a été dit, il a été vraiment le leader, et ça, c'est quand même une nouveauté, parce que il a longtemps mis du temps à s'affirmer en équipe nationale, autant qu'il le faisait en club. Donc ça, s'il commence vraiment à prendre ses responsabilités, à assumer ce rôle de leader technique, l'équipe sera tirée vers le haut, et on l'a vu, puisque c'est lui qui rétablit l'équilibre sans la faute qui est commise par Marquinhos.
Il va frapper.
D'ailleurs, je suis pas sûr que de toute façon il ne marque pas lui-même.
D'ailleurs, c'est le moment de la question David Finzel. Il n'a pas tiré le penalty.
Non.
Et pourquoi donc?
Parce que à la CAN, on s'en rappelle, il en a raté deux.
Mais Griezmann vient de rater des pénalties avec la France et il continue à les frapper.
Je pense qu'ils en ont parlé entre eux avant. Famara Diédhiou, qui faisait son retour, qui joue à Bristol, encore un joueur jouant en Angleterre qui est décisif dans un match international. Il a très bien tiré. Après, je sais pas si on voulait qu'on continue sur Mané ou qu'on élargisse aux autres joueurs.
Mais vous êtes les patrons.
Je trouve quand même que cette équipe.
Fait comme vous voulez.
Non, je trouve que malheureusement, ce qui manque au Sénégal, on l'a encore vu ce soir, cet après-midi plutôt, c'est des latéraux vraiment. Sabali n'était pas là. Racine Colli, que je connais bien puisqu'il joue à l'OGC Nice, encore une fois je le trouve un peu juste pour le niveau international. Lamine Gassama, pareil. Ouais. Souvent il n'y avait pas de possibilité de relance, souvent du jeu en retrait, du jeu latéral, alors que il n'avait pas le petit réflexe du latéral d'aller sauter le milieu, de faire une petite passe à mi-longueur et tout. Ça restait un peu stéréotypé. On peut aussi souligner par contre le bon match de Sané, parce qu'il n'y a pas que Koulibaly dans l'axe, il y a Salif Sané qui fait aussi un bon début de saison à Schalke.
Et Gomis.
Et Alfred Gomis, parfois un peu attentiste dans ses prises de décision. Parfois, il a une belle envergure,
c'est
ce gardien.
C'est agacé un peu après ses partenaires.
Il en impose, mais il aurait peut-être dû y aller un peu plus sur le but qu'il prend. Il subit un peu l'action, quoi. Mais il n'y a rien à dire. Il a fait aussi quelques bonnes prises de balles.
J'entends les préventions et les expertises de mes collègues. Mais simplement, je voudrais vous rappeler que le Sénégal a fait match nul avec le Brésil.
Oui, mais
le
grand
Brésil.
Et on en est bien content.
Mais là, vous êtes en train de m'expliquer que les latéraux sont faibles, mais que sans Mané, il n'y a pas grand-chose. Alors, s'il y a des latéraux, et s'il y a des
on va pas être complaisant parce que c'est une équipe africaine.
C'est pas complaisant.
Et puis, je rappelle quand même qu'avant la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, le Nigeria avait battu l'Argentine. C'est pas un exploit historique qu'une équipe africaine batte une équipe sud-américaine.
On a besoin que ça arrive régulièrement.
Ça n'enlève rien au mérite du Sénégal.
Le Brésil, ok, ça fait trois matchs qu'ils gagnent pas, mais ils restent quand même sur une grosse performance à l'été, je vous le rappelle.
Ils ont remporté la Coupe d'Amérique. Quand même le champion d'Amérique du Sud face au vice-champion
d'Afrique. C'était la coupe intercontinentale quasiment.
Encore une fois, insistons, effectivement il y avait le 11 type, hein, encore une fois côté brésilien, et donc le 11
moins,
type
moins le gardien de but
quasiment côté sénégalais,
moins Alisson.
Bon, c'était Ederson, c'est pas mal
qui
aussi
est pas mal, oui.
Mais encore une fois, on attend tellement de cette équipe du Sénégal. C'est que depuis des mois et des mois, alors il y a eu la finale de la CAN, mais même auparavant, on en attend monts et merveilles. Il y a des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Mané, qui a un cas à part, lui, il est stratosphérique, mais même d'autres joueurs qui jouent dans des grands clubs aussi. C'est pour ça qu'on en attend beaucoup, et c'est pour ça qu'on en veut plus. Après, et vous avez raison de dire, Gilles, faire 1-1 face au Brésil, c'est évidemment une belle performance, et on va jamais dire le contraire, c'est un fait.
Oui, mais c'est très bien pour le foot africain qui, en ce moment, est dans un enjeu géopolitique au niveau de la négociation des places pour le passage à 48 équipes en Coupe du Monde.
Mais j'insiste, le Sénégal, dans la tête, aujourd'hui, oui, l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, donc l'Algérie est officiellement numéro 1. Après, pour moi, ce n'est que mon avis, le Sénégal est au-dessus. Voilà. Et quand, pour moi, Sénégal est numéro 1, je me dis que le Sénégal peut faire tellement encore plus de choses.
En gardant toujours ce même sélectionneur, parce qu'on ne le dit jamais assez, il est là depuis un moment, et c'est peut-être ça aussi la clé de la réussite des Lions, et puisqu'on le rappelle aussi souvent, Aliou Cissé, si vous le connaissez, vous qui nous écoutez, rappelez-lui qu'il est invité quand il veut ici, on aimerait tellement, mais tellement l'avoir en studio, hein, pas au téléphone. On le veut pour de vrai.
Au téléphone, on l'a déjà eu.
En tout cas, il fait du très bon boulot. Je pense qu'on est tous d'accord, pour dire ça, avec une très très belle génération. Allez, on passe à un autre match amical qui était hier.
Attention, ce centre, c'était pour Serge Gnabry. Il y est arrivé. Oh, il a réussi le miracle. Il a réussi à se défaire de la défense argentine pour ouvrir le score à 16e minute. Gnabry, oh, ce bon ballon pour Kai Havertz. Et ça fait 2-0. Acuña, il est bon ce centre d'Acuña. Il est bon ce centre d'Acuña pour la tête de Lautaro Martinez. Le taureau relance l'Argentine. Une balle de 2-2. Une balle de 2-2 pour Ocampos. Oh, incroyable, Lucas Ocampos.
Allemagne-Argentine, donc là encore, quelle affiche pour un match amical, une mi-temps dans chaque camp, sans que l'on sache vraiment qui a fait un coup, ou à tout le moins qui s'est rassuré. Vous êtes d'accord avec ça, hein, Gilles, je vous vois opiner du hochet.
Je suis absolument d'accord, ça a été un match offensif, mais avec quand même des équipes diminuées, un match qui...
2-0 pour les Allemands à la mi-temps, hein, oui. On rappelle, puis 2-2 à l'arrivée.
Je retiendrai plutôt les faiblesses défensives qu'un score qui pourrait légitimer un vrai match de feu. Pour moi, il y a eu trop de lacunes, on se sent texte. C'était des équipes qui n'avaient pas encore d'automatisme. Il manquait des grandes stars, à part Gnabry qui a fait un match exceptionnel. Je n'ai pas été totalement emballé.
C'est Gnabry, puis Havertz qui ont marqué en première mi-temps. Et puis on a l'impression d'une extinction des feux en seconde période côté allemand. Alors même si les Argentins ont su rester accrocheurs, Alario puis Ocampos, hein, pour sa première sélection qui marque son premier but. Je vous propose d'écouter le sélectionneur argentin Lionel Scaloni, parce que lui, il était ravi en gros.
C'est sans doute la meilleure copie rendue par l'Argentine depuis que je suis sélectionneur, étant donné la qualité de notre adversaire. C'était une rencontre difficile, nous étions menés de 2 buts, et nous avons fait en seconde période ce que nous n'avions pas fait en première. Nous avons bien mieux ressorti les ballons, nous avons joué notre meilleur football. Le résultat est secondaire. L'attitude était la chose la plus importante. On a vu une Argentine décidée, qui savait ce qu'elle avait à faire avec des joueurs qui ont montré du caractère, et nous avons mûri dans ce match. J'ai vu beaucoup de choses positives pour l'avenir. C'est très important vu le calendrier qui nous attend.
Il a raison d'être content, Lionel Scaloni ?
Oui, relativement, parce que je trouve que collectivement, l'Argentine a quand même fait meilleure figure que notamment sur la Copa América, même sur la dernière Coupe du Monde, c'était quand même pas transcendant.
Sans Messi ni Di Maria. Hein,
voilà, sans ses leaders offensifs, sans son trident, ce trident offensif qui est quand même de classe mondiale. Donc, c'est quand même plutôt positif, même on le voit pour un joueur comme Paredes, qui suscite souvent le scepticisme quand on voit ses matchs au PSG.
C'est pas tout à fait logique.
Là, je trouve qu'il s'intègre mieux et on voit un peu le type de joueur que c'est. On voit ce qu'il peut apporter dans cette équipe. Bon, c'est pas encore parfait.
C'est vrai, c'est qu'elle arrive en début de match et pas à la mi-temps, cette équipe.
Après, moi, je trouve que ces matchs amicaux sur des dates comme ça, au quart de la saison, sans aucun pratiquement entraînement, puisque le match se joue un mercredi, alors que le rendez-vous FIFA a commencé un ou deux jours avant.
C'est ça.
On peut pas en attendre monts et merveilles en termes d'engagement et d'intensité, de rythme. Déjà 4 buts, c'est pas mal, il y a eu des belles actions. Moi, je trouve que l'Argentine, c'est moins désespérant que ça n'était il y a encore un ou deux ans, quand on voit ce qu'ils ont fait hier soir, quoi.
Non mais c'est des matchs amicaux, mais qui sont pas à des périodes dénuées d'enjeux, parce que c'est des matchs amicaux au milieu de rendez-vous internationaux, donc qui préparent des matchs décisifs quand même. Les équipes sont pas en vacances.
Il y a la peur de se blesser, le refus de s'engager trop et tout ça.
Il y a quand même des points à marquer pour des joueurs ou des points à perdre. Donc je suis un peu moins dubitatif que vous.
Après, comme il y avait beaucoup d'absents des deux côtés, hein, en l'occurrence, il y avait certains joueurs qui pouvaient au moins se montrer.
Certains l'ont fait.
Voilà, c'était quand même important pour certains joueurs.
Les Allemands ont semblé sur courant alternatif. Hein, on est passé du très très bon au très très nul. On est en plein changement de génération. Hein. On sent bien que les champions du monde 2014 sont priés d'aller voir ailleurs si Joachim Löw y est ou qui que ce soit d'autre. Et puis forcément, ça nous fait une équipe assez jeune. Hein. Alors ça se prépare, hein, ça se paye aussi cette jeunesse. Arrêtons-nous sur Serge Gnabry, l'attaquant du Bayern, quadruplé à Tottenham la semaine dernière en Ligue des Champions, un but hier. On en parle après avoir écouté l'avis de son sélectionneur Joachim Löw.
Serge s'est montré un peu partout durant la rencontre, il a toujours été très dangereux et il a fait douter la défense argentine à de nombreuses reprises en première période. Nous ne voulions pas qu'il joue 90 minutes, il a beaucoup donné avec son club dernièrement. C'est pourquoi il était clair dès le début que nous allions le faire sortir à la 70e. Le risque était trop grand pour moi qu'il puisse encore se blesser. Nous avons vraiment besoin de lui dans les prochains jours.
Dans les prochains jours, on a envie de dire dans les prochaines années, ils ont besoin de lui. C'est une pépite, c'est la nouvelle pépite sur laquelle il faut s'arrêter.
C'est étonnant quand même, Gnabry, parce que lorsqu'il était à Arsenal, puisqu'il faut rappeler que son premier club, au final pro, c'est Arsenal, je vais être franc avec vous, moi, mais comme de nombreux titres anglais, à l'époque, lorsqu'on observait, avec les Gunners, on n'y croyait pas du tout. On pensait que ça faisait partie de ces jeunes qui, sur lesquels Wenger avait ciblé et se disait ça peut être un potentiel intéressant. Au final, il n'avait jamais vraiment performé à Arsenal. Il avait été prêté à West Brom. Et également à West Brom, il n'avait rien montré. Ouais. Un flop, effectivement. Et depuis qu'il est arrivé en Allemagne, notamment le Werder d'abord, où il a commencé à montrer des choses, bon, ben, le fait de partir et de retourner dans son pays d'origine, peut-être que. Et c'est vrai qu'avec ce Bayern-là, et surtout ce Bayern, j'ai envie de dire, où il n'y a plus le duo Robbery, où donc il a potentiellement ses responsabilités désormais, et bien là, Gnabry est totalement libéré. On voit ce que ça donne.
Gilles.
C'est là où on voit que pour les joueurs offensifs, attaquants ou buteur, la confiance joue un rôle primordial, parce que quand vous voyez son but, le petit contrôle du pied juste après le tacle défenseur, qu'il attend, il anticipe, il sait que ça va rater, il anticipe, et après le petit extérieur pour marquer, c'est lumineux, c'est le signe d'un joueur en pleine confiance.
Techniquement, c'est parfait.
Brésilien. Donc cette technique-là, elle n'a pas été acquise dans les trois dernières semaines, mais mentalement, il n'osait pas réaliser tel geste. Comme il est en confiance, il le fait. Et je dirais aussi que la nouvelle confiance que lui accorde le sélectionneur, elle va renforcer ça. Parce que Joachim Löw, il est éminemment intelligent. Il a duré avec ses champions du monde, vous le signaliez. Il a duré le plus longtemps possible. Et puis à un moment, il s'est dit, si je les garde, c'est moi qui saute. Et donc là, il passe aux jeunes. Et
d'où ce courant alternatif?
D'où ce courant, mais oui, et aussi d'où cette confiance accordée dans la déclaration qu'on entendait à un joueur comme Gnabry. Il sait que c'est l'avenir et c'est son avenir aussi.
Rappelons aussi qu'il aurait pu jouer pour la Côte d'Ivoire, puisqu'il est de père ivoirien.
Et c'est bien.
Un certain temps, quand il était à Arsenal, que ses prestations n'étaient pas extraordinaires, il y a peut-être eu des hésitations. Mais évidemment, il a bien fait de continuer comme ça. Mais rappelons qu'il a déjà 24 ans. Vous dites pépite, c'est pas un jeune joueur qui vient de se révéler. Il a galéré, Gnabry. Il a mis du temps à éclore.
Mais en tout cas, sur cette jeune génération, le plus vieux dans les joueurs de champ, mis à part Neuer, c'est Reus à 30 ans. Donc, c'est vous dire qu'il n'a pas joué. C'est vous dire qu'il y a quand même beaucoup de joueurs, jeunes. Kaya Vert, c'est évidemment la pépite du Bayern Leverkusen. Klostermann également défenseur. Enfin, il y a tellement de joueurs. Löw peut sur les prochaines années avoir une super génération et donc de super parcours.
Dans leur groupe, ils sont à égalité avec l'Irlande du Nord, mais ils ont un match de plus que les Pays-Bas. Les Allemands joueront en Estonie. Ce sera dimanche. On vient d'évoquer le lien avec la Côte d'Ivoire. Il est grand temps de parler de l'Afrique. Et on va faire simple, le tirage au sort hier au Caire de la phase de poule de la Ligue des Champions, c'est le moment attendu, c'est là où les choses sérieuses vont commencer, et honnêtement, c'est quand même très alléchant, cette compétition, de plus en plus. Alors, on va faire basiquement par groupe, parce qu'on va se garder le meilleur pour la fin, ou le plus dingo pour la fin. Groupe A, Primeiro de Agosto, les Angolais, TP Mazembe, vainqueur régulier de cette compétition, sans doute le plus gros club d'Afrique noire, on va dire ça comme ça, actuellement, et puis quelques années, on salue le président Moïse Katumbi au passage. Le Zamalek est dans ce groupe, ou alors Génération Foot.
Ouais,
non, laissez-moi terminer. Nos amis sénégalais de Génération Foot, cette histoire-là est loin d'être terminée. Et puis ces Zambiens de Zescou United qui sont des habitués. Alors évidemment, dans ce groupe, quand on cite, on se dit, bah alors qui Zamalek ou Génération Foot? Parce que ça peut changer des choses.
Alors, ça n'aurait pas été tout à fait un tirage au sort de Ligue des Champions africaines si tout le monde avait été connu, etc. Ouais. Maintenant, on a l'habitude, hélas, je manie l'ironie, mais elle est grinçante. Oh oui. Des tapis verts, des reports. Donc là, il semble que le match se jouera. C'est déjà ça, parce que il y a quelques heures.
Mais alors où? Alexandrie, Port-Saïd,
c'est au Caire.
On ne sait pas encore où.
Là, à mon avis, si ça risque de changer une nouvelle fois, il jouera pas une nouvelle fois.
C'est surréaliste quand même. Hein. Oui. C'est surréaliste. Alors les Sénégalais s'arrogent la victoire diplomatico-administrative en disant nous avons obtenu. Bon, je veux bien. Pour moi, il y a un grand perdant, c'est encore le football africain dans son organisation, parce que c'est pas normal. Quoi.
Je suis d'accord avec Gilles.
Alors on attendra pour parler de ce groupe A de savoir qui du Zamalek ou de Génération Foot accompagne le TP Mazembe, Primeiro de Agosto, Zesco United. Bon, TP Mazembe a un coup à jouer quand même. Groupe B, Étoile du Sahel, les Tunisiens, Lilal, les Soudanais, Platinum, les Zimbabwéens et le National du Caire, Al Ahly. Là, c'est Étoile du Sahel et le National du Caire, c'est quelque chose. Là.
A priori, c'est nettement les deux favoris. Mais attention, Al Hilal, c'est toujours difficile d'aller jouer à Oum Dourman dans ce stade assez bouillant. C'est une inconnue, le Platinum, les Zimbabwéens, on ne sait pas trop.
Ça peut être piégeux aussi.
Ça peut être piégeux également d'aller jusqu'au Zimbabwe.
Voilà. Le groupe C. Avec l'USMA, les Algériens, les Mamelodi Sundowns, qui avaient surpris tout le monde en étant champion il y a quoi,
2016.
Ans, 3 ans, comme le temps passe. Petro Atlético, encore des Angolais. Et le Wydad Casablanca, le champion 2017. Là encore, voilà, c'est un groupe qui mérite l'USMA, le Raja. Mais les Mamelodi Sundowns sont là aussi, ça va batailler.
Ça va être difficile parce que l'USMA est en difficulté financière. C'est un club pourtant bien structuré, mais qui a des difficultés en ce moment. Ça change un peu la donne dans ce groupe. Les Mamelodi Sundowns ont quand même perdu Rama Biliat, quand même leur meneur de jeu, leur maître à jouer, le Zimbabwéen qui est parti au Kaizer Chiefs. C'est plus la même équipe, mais c'est toujours le même entraîneur, Pitso Mosimane, qui est quelqu'un d'assez inspiré, capable de coups tactiques assez géniaux. Et puis bon, Wydad Casablanca, une équipe revancharde, puisque les Marocains estiment qu'ils ont été victimes d'une injustice lorsqu'on a octroyé la coupe à l'Espérance.
La Coupe 2019.
On s'en rappelle, on va pas en reparler, c'était déjà assez navrant comme ça.
Alors l'Espérance, oui, tenante du titre, qui se trouve dans ce groupe D de Dingo. Le Raja Casablanca, alors bon, champion en 99, en 97, en 89, la JS Kabylie qui a remporté, bon ça date un peu, 90 et 80, la SV Club, qui avait remporté cette compétition en 73, ça ne s'appelait pas.
Et finaliste 2014 également.
Et enfin, l'Espérance Tunis, tenant du titre, palmarès.
Double tenant du titre.
Long comme le bras, double tenant du titre.
Vous voyez, c'est
une poule
incroyable.
Juste avant, effectivement, de voir même le niveau de ces équipes-là, entre guillemets, c'est juste les noms, quand même. Ah, ouais. Là, on parle de noms historiques. Voilà. On peut aller dans les années 70 pour retrouver certains trophées, certains parcours, ou remonter à l'époque récente avec le Vita, par exemple. Enfin.
Là, on n'a presque pas besoin de chercher.
Non, mais imaginez une poule de Ligue des Champions où vous auriez Real Madrid, Manchester United, Bayern Munich, et puis la Juve.
Mais c'est incroyable. C'est là où je suis pas d'accord avec vous parce que j'étais en train de faire la liste. C'est pas ça. Ce serait Celtic, Benfica. C'est plus. Mais oui, mais on recule quand même.
AS Vita Club finaliste en 2014.
Oui, d'accord.
C'est
finaliste en 2014.
C'est récent.
Okay. Et l'Espérance double tenant du titre.
Oui, d'accord. Ça fait deux, mais pour le reste, on est quand même. Ouais. Ce sont des magnifiques noms. Des noms historiques.
Ça va, ça va, ça va.
Légèrement passés.
Ouais,
mais on n'est pas dans Real Madrid, Manchester, Bayern.
La JS Kabylie, au contraire de l'USMA, est un club qui reprend du poil de la bête au niveau financier, au niveau économique, qui est en train de bien se restructurer, qui a pris Hubert Velude comme entraîneur, qui a succédé à Franck Dumas, donc qui prend des coachs expérimentés. Et ça fonctionne pas mal, hein, ça fonctionne pas mal. Il faut se méfier de la JSK dans ce groupe. Je pense qu'ils sont capables de faire de bonnes choses. Donc attention, l'Espérance qui, elle, au contraire, a perdu beaucoup de joueurs au Mercato, qui a vendu pas mal de... Qui a laissé partir pas mal de ses cadres, dont Belaïli, le champion d'Afrique, qui a une équipe rajeunie, avec beaucoup notamment de jeunes Algériens. Ils doivent faire encore l'apprentissage du très haut niveau, donc ça, c'est très équilibré. L'Espérance, évidemment, a un bon entraîneur, Chabani, qui était l'homme des deux derniers sacres, mais il faut se méfier... C'est très équilibré encore.
On va surtout s'y intéresser. Ça débute, on a encore un peu de temps. Le week-end du 29-30 novembre, 6 journées évidemment, les deux premiers qualifiés. Ça se termine début mars, 6-7 mars, les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce jeudi. Demain, vous retrouverez pour, bien sûr, le Café des Sports sur Facebook Live. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Avec Hugo Moissonnier, la dame de retour lundi. Merci monsieur Salerno. Priorité santé.